Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Et c'est toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve sur Média pour notre escale culture au cœur de l'Afrique, du Nigeria en passant par le Maroc ou encore le Sénégal, sans oublier le Ghana. Aujourd'hui, on se fait plaisir jusqu'au bout.
Média 1, Amna, l'Afrique en culture.
Et nous irons tout d'abord ensemble à Rabat, en compagnie de Marwan Fershan, à la découverte de la fondation Liba, créée en 2006 à l'initiative du roi Mohamed VI, et dont le but est de mettre en exergue l'art et la culture. La fondation Liba a pour vocation, je le rappelle, de soutenir la création artistique sous toutes ses formes, tout en mettant en avant la diversité et les spécificités du patrimoine culturel national. Musique, théâtre, danse, street art, mode ou encore jeux vidéo, la fondation Liba est devenue en quelques temps seulement le cœur battant de la scène culturelle et artistique du royaume. On s'offrira également une escale culture avec le lancement du projet No Logo de Chefchaouen en passant par Tiznit ou encore Casablanca. Du 4 mars au 19 mars 2022, la culture est à l'honneur. Lancé par l'association tunisienne Ecos Électrique, le projet No Logo au Maroc est un projet de promotion artistique et culturelle, je le rappelle, trans-maghrébin. Il se présente au public sous une structure gonflable baptisée La Bulle, une initiative culturelle originale et riche et qui se consacre, je le rappelle encore une fois, aux nouvelles formes d'expression artistique en lien notamment avec les nouvelles technologies sous toutes leurs formes. Et pour nous en parler, on recevra le directeur de No Logo, Afif Hiani. Et on parlera également cinéma avec le père de Nafi, du cinéaste Mamadou Dia, qui aborde les thèmes lourds, très lourds et délicats comme les thèmes de la famille, de l'amour, encore de la menace du radicalisme religieux. Salué par la critique, ce long métrage est lauréat du Léopard d'Or au 72e Festival de Locarno en 2019. Mamadou Dia, qui fut journaliste pendant 10 ans, s'est inspiré de sa vie, de son vécu en Afrique et de son pays natal, le Sénégal, pour ce premier long métrage. Et vous le savez, dans l'Afrique en culture, eh bien, on adore la musique. Aujourd'hui, on aura craqué pour deux artistes. Le premier est anglo-ghanéen, Kojé Radical, qui a dévoilé enfin son tout premier album Reason to Smile, un album très conceptuel dans lequel on y entend la mère de Kojé qui revient donc sur l'éducation et les sacrifices qu'elle a dû faire pour son fils et les difficultés qu'elle a rencontrées en Grande-Bretagne, à Londres, après avoir pris la décision de s'exiler. Et on parlera également de l'artiste nigérian Tim Lyre, un talent brut, une jolie pépite, un artiste très prometteur de la nouvelle vague alternative nigériane qui nous a régalé dernièrement avec Worry, un album de 9 titres ultra réussi. Et comme promis, cap tout d'abord sur Rabat, dans l'Afrique en culture, aux portes de la fondation Liba, une association à but non lucratif pour la promotion de l'art et de la culture qui a vu le jour à l'initiative du roi Mohamed VI en 2006. Depuis la fondation, Liba est devenu un lieu incontournable de la scène culturelle et artistique marocaine, musique, théâtre, danse, art de la rue, photographie, design ou encore mode. La fondation Liba bénéficie d'une vision globale et transversale qui fait justement sa force, devenue véritable pépinière et tremplin pour les artistes ou les jeunes talents. La fondation Liba, comme nous l'explique le directeur Marwan Fershan, est avant tout un espace entièrement dédié à l'art et à la culture sous toutes ses formes. Mais c'est également une programmation taillée sur mesure.
Alors la fondation Liba, c'est deux choses qui se croisent. D'abord, et j'aimerais bien que ce soit clair pour les auditeurs. D'abord, ce sont des espaces physiques, donc des immeubles, Blaza Kejilal Insan, donc un lieu culturel, et ensuite des programmes. Et les programmes sont exécutés dans les lieux et hors des lieux.
D'accord.
Je vais commencer par les lieux, on met dans les programmes.
D'accord.
Les lieux, c'est le cinéma Renaissance qui est au rez-de-chaussée.
Oui.
Le cinéma Renaissance sur l'avenue Mohamed V à Rabat était pendant longtemps le seul cinéma de Rabat et le seul écran qui projetait des films, on va dire, arrêtés, etc., etc. Deuxièmement, on a un café culturel. Oui. Qu'est-ce qu'un café culturel ? C'est ce concept qui est né il y a quelques années, de dire, en tant que votre café sur une terrasse ou dans un lieu, vous avez une prestation artistique qui accompagne votre dégustation de votre café. Et de là est née toute une programmation culturelle sur toute la semaine. Le troisième lieu, c'est le laboratoire d'expérimentation artistique qui s'appelle le Hiba Lab. Mmh. Il est très connu au niveau de, on va dire, des structures culturelles de Rabat parce qu'il est loué à un tarif très symbolique aux associations pour leur usage. D'ailleurs, je pense que le grand public connaît le baroque, la troupe de danse, la télévision. Mmh. Ils ont démarré, ils ont vu leurs ateliers se massifier chez nous au Hiba Lab. Et on a plein d'autres, différentes thématiques, théâtre, danse, yoga, etc. etc. Enfin, voilà, et le dernier lieu physique, c'est le studio de la Fondation Hiba, oui. Le studio Hiba, qui est à Casablanca, mm-hmm. et qui, lui, est un complexe musical. Donc, il y a des suites pour les artistes, il y a les studios d'enregistrement, les salles de répétition. Le studio, c'est principalement, c'est le meilleur studio d'enregistrement de musique en Afrique, mmh. et le plus grand, on va dire physiquement, et le meilleur en termes d'équipement. Il accueille des artistes VIP très grands, notamment, par exemple, typiquement, je souhaite le mentionner, mais l'album le plus écouté sur Spotify d'Algan de Toto a été mixé chez nous, à la Fondation, okay. au studio Hiba, typiquement. Et voilà, donc ça, c'est les lieux. Maintenant, pour répondre à la question de qu'est-ce qu'on offre exactement aux jeunes, on leur offre tous ces lieux-là. Mmh. pour des tarifs hyper symboliques, voire D'accord. gratuits. Mmh. On a un programme qui s'appelle Hibarek,
oui.
qui enregistre, qui accompagne chaque année 12 à 15 artistes sur 4 genres musicaux différents. Donc on parle de world music, pop, rap, hip-hop et rock metal. D'accord. Et sur ces différentes disciplines, genres musicaux, on va enregistrer gratuitement 3 artistes sélectionnés sur une base d'appel à candidature avec un comité de sélection mixte avec des experts des dessins musicaux sur le territoire national et international. Et en gros, par exemple, typiquement là, l'appel à candidature ouvert en ce moment même, pour parler de plus en plus concret, c'est la quatrième édition du rap hip-hop. Donc là, on a ouvert l'appel début mars. Mm-hmm. Il va couler jusqu'à fin mars. Et l'idée, c'est que sur les centaines de postulants qu'on va recevoir, on va en sélectionner 3 à 6 qui vont avoir la panoplie complète de la Fondation offerte à eux. Mm-hmm. Au niveau du studio, on a d'autres programmes, typiquement le Bibliobus, le centre de ressources. Bibliobus, c'est un bus qui tourne en partenariat avec la Fondation Renault et l'association Algis dans les écoles éloignées du Maroc pour les ateliers de lecture et de gestion de bibliothèque et de projection. On a le centre de ressources qui est quand même la base de données la plus riche en termes de documentation en faveur des artistes marocaines aujourd'hui mise à leur disposition gracieusement. Il y a une panoplie de projets qui permet aux jeunes artistes marocains de rayonner, voilà, à travers, avec le soutien de la Fondation Hiba, bien évidemment.
Et c'est là où je voudrais en venir, Marwan. On parle au niveau national, donc de la promotion culturelle, artistique de nos artistes, de ces jeunes talents. Et on sait à quel point également le roi Mohamed VI porte en son cœur la culture africaine de manière générale et à quel point il veut la faire rayonner au-delà de notre continent. Et je voudrais savoir si la culture africaine maghrébine, de manière générale, a une place également au sein de la Fondation Hiba.
Eh bien, oui, tout à fait. La culture africaine a bien, bel et bien sa place. Et je pense que cette année, ce sera encore plus mis en valeur. Mm-hmm. Rabat est capitale africaine de la culture pour l'année 2022, puisque ça a été reporté par rapport aux années passées. Et nous sommes en discussion avec le CGLU, donc l'organisation qui pilote ce projet-là, pour pouvoir porter aussi plusieurs activités dans le cadre de cette manifestation-là. Je pense que ce sera le plus bel exemple de dans quelle mesure nous sommes prêts à ouvrir nos portes aux cultures africaines et à l'export et l'import de la culture africaine au sein de nos lieux et de notre capitale. Mais en tout cas, oui, je vous le confirme, les limitations géographiques des actions de la Fondation ne se limitent pas au territoire national, mais nous sommes complètement ouvert à des collaborations maghrébines, donc que ce soit Tunisie, Algérie, etc., ou un peu plus au sud de l'Afrique avec nos confrères subsahariens.
Bah écoutez, Marwan Farchan, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Fondation Hiba. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci beaucoup. Très bonne journée à vous et bienvenue, mahbab bikoum, mahbab tout le monde à la Fondation et dans ces différents lieux.
Merci infiniment. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Et après ce détour du côté de Rabat, au cœur de la fondation Hiba, en compagnie de son directeur Marwan Farshan, nous allons parler musique. Dans un tout autre registre, aujourd'hui nous allons aller à la rencontre de l'artiste anglo-ghanéen Kodje Radical, qui dévoile enfin son tout premier album, Reason to Smile. Un album conceptuel dans lequel on y entend la voix de la mère de Kodje, qui revient sur l'éducation difficile de son fils et des difficultés qu'elle a rencontrées en arrivant en Grande-Bretagne, à Londres, après avoir pris la décision de quitter son pays d'origine pour venir s'installer à Londres. Un album qui sonne comme une Madeleine Proustienne, entre rap incisif et rythmique et mélancolique teinté de trap. Le J nous régale avec un album dense, puissant et sans demi-mesure. D'ailleurs, on écoute le premier single de Reason to Smile, baptisé War Outside. Et on se retrouve juste après, toujours dans l'Afrique en culture.
Feeling deep in my stomach, ain't nobody laughing. Ah, ah, ah. I think the joke's on me. Feel it in my bones, feel it in my soul, feel it in my spirit. No, I shouldn't put it all on me. Damned if I do, canceled if I don't. Either way, I'm wrong. I'm just trying to get this weight off me. Didn't have a half, so I took a quarter, sipping only water while I listen to hypocrisy. There's a war going on outside. Nobody see it but me. There's a war going on outside. Nobody see it but me. Still don't watch the news, no, no, no. Cause my nigga ain't your nigga, so be careful what you say for views. Tried to talk about it, tried to walk around it, tripping, now I'm drowning. I'm a aura, got them ocean blues. Felt like I'm above it until it's my cousin, and I got to tell his mama what I did not do. Why weren't he with you? Am I that removed? Am I just confused? I don't make the rules, they make me. There's a war going on outside. Nobody see it but me. There's a war going on outside. Nobody see you but me.
War Outside, prélude du nouvel album de Kodje Radical intitulé Reason to Smile, et qui inclut également Gangsta, sans oublier et bien plusieurs autres titres, avec des featuring prestigieux comme ceux avec Tiana, Madronine, Masego, Ego et la May, Shy Universe, sans oublier la propre mère de l'artiste que l'on entend parfois chanter donc sur cet album. Il faut le rappeler, c'est un album mûrement réfléchi qui s'inscrit dans une étape importante pour l'artiste Kodje Radical, je le cite. Auparavant, c'était « je m'échauffe, je m'échauffe, je m'échauffe, mais je suis chaud maintenant, faites-moi une place dans le game ». Kodje Radical a décidé de se lancer, de déployer ses ailes. Et sur « Reason to Smile », Kodje invite notamment Lexamore sur « Whiteside », le rappeur Nux sur le « Super Funky Payback », ainsi que Kellistiana, Madronine, Masego, je le rappelle, ou encore Ego. Elle a, alors si son dernier EP Cashmere Tears nous avait déjà plongé dans son intimité, ce premier album, ce premier opus long format signe pour Kodje Radical un revirement artistique de taille qui pour le moment régale et le public et la critique. Et après cette petite virée musicale, nous allons nous engouffrer dans un monde peu connu du grand public et honneur aux femmes. Ces femmes de l'ombre dont dépend la lumière. Elles sont prêtresses, patientes, clientes, danseuses ou musiciennes. Elles sont au cœur de ces confréries religieuses, que ce soit le Stambali en Tunisie ou encore le Dzar égyptien, sans oublier la confrérie Gnaoui au Maroc. La femme comme pilier, la femme comme cette Aleph de Borges, autour de laquelle le monde tourne et se réfracte. Car oui, en Afrique, au sein de plusieurs confréries religieuses, la femme en est le cœur. C'est elle qui donne le ton, c'est elle qui a le pouvoir d'ouvrir les portes de la guérison et de guérir les blessures de l'âme. À la fois thérapeute et musicienne, prêtresse et gardienne du foyer, les femmes sont celles qui détiennent le secret des lilas sacrés ou encore de la musicothérapie. Stambali, Banga, Gnawa, Diwan ou Zar égyptien, peu importe le nom ou le pays, c'est la femme qui détient les secrets de ces mondes. Et qui de mieux pour nous en parler que le musicologue Ahmed Haïdoun, qui place la femme au centre même du rituel, au centre même de la lumière.
En termes de musique, généralement, tout se passe comme s'il y avait une certaine division de travail entre l'homme et la femme.
D'accord.
Entre des activités indoor et des activités à l'extérieur. Comme toutes les autres activités, qu'elles soient activités productives, agricoles, quelque chose. Donc, cette division reste, si vous voulez, en filigrane, cette division du travail. Abstraction faite des développements récents, où on trouve la femme partout dans tous les domaines. Donc, la femme, elle a investi tous les domaines. Donc, généralement et traditionnellement, l'activité musicale de la femme est touchée au domaine du chant et de la danse.
Oui.
Et la femme pratiquait rarement les instruments de musique, si ce n'est accessoirement de la percussion.
Oui.
Par contre, quand il s'agit des rituels, du sacré, des confréries, les femmes sont souvent présentes et ont un rôle de maîtresse de cérémonie. C'est le cas, par exemple, quand on parle de Mkdma des Gnawa. D'un côté, il y a le malam et les musiciens qui ont la tâche de faire de dérouler la science musicale avec toutes ses phases. Mais d'un autre côté, c'est elle qui garde les accessoires, les verras, les foulards, les encens et tout, et qui règle phase par phase, couleur par couleur, danse par danse, prise en charge des gens qui sont là pour une musicothérapie.
Oui.
Donc la femme, elle est au centre du rituel Gnawi. C'est-à-dire, si on abstrait ce rôle, il ne reste que le côté acoustique, que le côté musical. C'est le cas aussi, la femme, elle est présente dans un certain nombre de confréries qui sont spécifiquement féminines. Par exemple, au nord du Maroc, il y a les femmes musiciennes, les femmes fterat, comme dans une tradition, une ancienne tradition andalouse, où il y avait les femmes qui ne jouait que pour les femmes, c'est-à-dire que se spécialiser dans performances spécialement dirigées et servies pour les femmes. Si on revient par exemple à Mkdma Dignawa, Mkdma Dignawa, il avait aussi un autre rôle. Et certains l'appellent aussi Tla, c'est-à-dire il a une action de divination, et ça nous rapproche de certaines pratiques africaines, et notamment celle que vous avez notée pour le Zar
égyptien.
Le Zar égyptien, où la femme qui régente, qui réglemente certaines thérapies de groupe, certaines maladies psychiques.
Oui.
Donc voilà, on avait aussi certaines formes de Zar au Maroc. Ça a un rapport avec quelques manifestation, si vous voulez, marginale de certaines grandes confréries. Par exemple, quand on parle des Ahmed Shah ou des Meliana, etc., des Gilala, etc., il n'y avait pas que le travail qui apparaît. Parce que la femme, généralement, elle est, si vous voulez, dans une pratique sociale. Si vous voulez, la pratique musicale, c'est une pratique qui est directement liée à un acte social. Hors de cet acte social, toutes les femmes qui s'aventurent dans d'autres sphères de signification sont généralement taxées de légèreté. Quand on parle par exemple des shirat, shirat c'est comme, si vous voulez, une certaine pratique de marge qui fait que la femme shira est à la fois adulé dans le spectacle et en situation, mais en même temps déprécié quand il s'agit du statut social.
Oui,
et donc,
il y a l'ambivalence.
Il y a une ambivalence, c'est-à-dire il est tellement apprécié quand il s'agit de l'écouter ou de la voir danser, mais après, hors de cet espace symbolique, et il
c'est
est au bas de l'échelle.
Et moi, là où je voudrais en venir, Sihaïdoun, c'est dans notre, vous l'avez très bien expliqué, ça date depuis la nuit des temps, cette place de la femme au sein de ses confréries, ça ne peut pas donner un homme, c'est elle qui a les clés. D'ailleurs, dans la confrérie Gnaoui, le premier esprit qui est invoqué, celle qui ouvre les portes, n'est pas un esprit masculin, mais un esprit féminin, c'est la Mimouna. Et je voudrais revenir, pourquoi ce pouvoir a été donné aux femmes et pas aux hommes?
Je crois que c'est une question pratique, parce que si les hommes s'occupent de la réalisation musicale, ils n'ont pas toute la latitude de faire à la fois les deux. Donc c'est ce que j'ai dit au début, la division du travail.
D'accord.
C'est-à-dire que on a besoin de quelqu'un qui est à l'extérieur du répertoire musical pour pouvoir gérer tout ce qui est autour. Et ce qui est autour est très important symboliquement.
Et justement,
et donc la femme aussi, je vais m'aventurer dans une autre explication, que la femme, c'est la femme qui garde le foyer, c'est la femme qui garde les accessoires, c'est la femme qui sait ordonner des choses. Il faut encore approfondir cette question.
Ça se fait de femme en femme.
De femme en femme. Et j'ai oublié de mentionner un fait très 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 important. Mm-hmm. Le répertoire du maître de Panagiri, du prophète Sidna Mohammed, il est fait essentiellement par les femmes.
D'accord.
Donc les plus grandes formations de musiciennes, de chanteuses qui se consacrent au répertoire sacré sont des femmes. Donc Mdahat, à partir de Glimim jusqu'à Dakhla, dans toutes ces villes-là et ces contrées-là, ce sont des femmes principalement. Il y a des hommes aussi qui font ce répertoire, mais la plus grande majorité sont des femmes.
Et on va peut-être terminer sur ça.
Voilà.
Bah, écoutez, Sidi Ahmed Haïdoun, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. À très très bientôt. Au revoir.
Merci à vous.
Et d'ailleurs, avant de nous retrouver pour la deuxième partie de l'Afrique en culture, que vous pouvez retrouver en avant-première sur Média Podcast, on écoute Lella Mimouna, esprit féminin qui ouvre le répertoire Gnaoui. Sans elle, il ne peut y avoir de Lila. Sans elle, les portes de la guérison restent fermées. Esprit féminin par excellence, c'est elle qui donne le ton aux esprits mâles et qui ne peuvent rentrer dans la danse sans sa permission. Lella Mimouna, revisitée par le Maalem et fan d'électro, l'artiste et le grand maître Gnaoui, Habib Belk.
I'm
Amna, l'Afrique en culture.
Et c'est toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve pour la deuxième partie de l'Afrique en culture. Et avant d'aller à la découverte de ce très beau projet, Nos Logos, qui fera une escale dans les villes de Chechaouen, Tiznit ou encore Casablanca. On parlera également, je vous le rappelle, de l'artiste nigérian Tim Lyre, le nouveau visage de la scène alternative africaine. Avant toute chose, on parle cinéma dans l'Afrique en culture. Et on parle, comme promis, tout d'abord cinéma avec un film qui aura marqué de son empreinte le cinéma africain. Le père de Nafi, de Mamadou Dia. Premier long métrage du réalisateur, le père de Nafi a, je vous le rappelle, remporté au festival de Locarno le Léopard d'or de la section cinéaste du présent et le prix de la meilleure première œuvre. Le père de Nafi de Mamadou Dia est un film, il faut l'avouer, profondément personnel et humain, qui met en scène une guerre fratricide qui fait rage dans le petit village de Yonti. Il est question d'amour, de valeur, de tradition. Tourné dans une petite ville au Sénégal, l'idée de cette œuvre remonte à l'époque où le cinéaste Mamadou Dia faisait encore ses études aux États-Unis. Alors, d'après le synopsis, le film Le père de Nafi est une œuvre basée sur l'opposition de deux frères. Je cite, on ouvre les guillemets, à propos du mariage de leurs enfants. Deux visions du monde alors s'affrontent, l'une modérée, l'autre radicale. Les jeunes Nafi et Tokara, les jeunes mariés, les jeunes amoureux, rêvent eux de partir étudier à Dakar, de vivre de liberté et d'amour, de vivre avec leur époque. À la manière d'une tragédie, les amoureux doivent trouver un chemin pour s'émanciper des conflits, des traditions et du joug des adultes.
Fodden ko darnude l'islam.
Le père de Nafi, donc, le premier long métrage du cinéaste sénégalais Mamadou Dia. Alors dans le film, nous faisons connaissance tout d'abord avec Tierno, un imam empathique et profondément humain, mais dont le corps est malheureusement gangréné par une maladie. En même temps, il est confronté à ce choix cornélien. Sa fille Nafi souhaite se marier avec son cousin Tokara et s'installer à Dakar pour vivre sa vie et faire ses études. Et c'est là qu'entre en scène le frère de Tierno, Ousmane, revenu d'un long séjour en Europe où il s'est malheureusement radicalisé. Il s'installe petit à petit dans le village et impose sa loi et met à l'écart son frère, l'imam du village modéré et plein d'empathie. Même s'il approuve le mariage, il exige que Nafi, sa future belle-fille, reste au village et renonce à ses études. Le mariage devient alors chez Mamadou Dia un enjeu qui dépasse l'amour. Il devient le prétexte même pour aborder d'autres thématiques comme la place de la tradition au sein de la société sénégalaise. Le père de Nafi, c'est d'abord la confrontation, il faut l'avouer, de deux frères. Il donne à ce film une allure de tragédie grecque. On parle également du caractère communautaire des relations entre les familles ou à l'intérieur d'une famille, et comment l'extrémisme religieux pouvait, peut, corrompre ces mêmes mécanismes communautaires ancestraux. C'est une histoire très personnelle que le cinéaste Mamadou Dia voulait absolument retranscrire dans une démarche à la fois documentaire, didactique et thérapeutique. La caméra de Mamadou Dia filme en tout cas magnifiquement bien ce village qui se situe dans celui de son enfance, Matam. La gravité des visages, notamment celui d'Alassane Sy, qui joue Tierno, donne une toute autre ampleur au film, dont la thématique principale, celle de la guerre fratricide, donne également une dimension mythique qui inscrit le film de Mamadou Dia dans une dimension universelle. Et c'est ça également la force de ce film, Le père de Nafi, qui propose une chronique sociale, intime et délicate, maîtrisée d'une main de maître et qui dépasse la société africaine pour toucher à l'universel. Et après avoir parlé cinéma, nous allons à la découverte d'un projet qui nous a fait vibrer dans l'Afrique en culture. Baptisé No Logo, c'est le dernier né de l'association tunisienne Ecos Électrique. No Logo fait la part belle, eh bien, à la promotion artistique et culturelle transmaghrébine. Il faut dire que No Logo est avant tout une bulle physique, itinérante et éphémère. Un microcosme bâti avec la participation des différents partenaires dans les villes où le projet déploie ses ailes. Pour l'étape marocaine, le choix s'est notamment porté sur les villes de Tiznit, de Chefchaouen ou encore de Casablanca, pour le plus grand plaisir du public marocain, qu'il soit initié ou néophyte. D'ailleurs, on écoute le directeur Afif Rihani.
Ils sont ravis de découvrir ou sont plutôt en train de se questionner, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des artistes qui, eux, sont dans la pratique et du coup, pour eux, c'est une opportunité de plus de pratiquer, de collaborer, de travailler avec d'autres artistes.
Oui.
Donc il y a vraiment différentes approches, différents types de publics qui font que c'est tout l'intérêt en fait du projet. Dans sa mobilité, c'est qu'il va aller toucher différents types d'artistes à différents degrés et différents publics aussi, puisqu'on est dans l'espace public.
Bien sûr.
L'espace public, c'est un espace partagé par tous. Mm-hmm. Nous, on a ce désir d'abolir toutes les barrières d'accessibilité à l'objet culturel, mmh. d'où donc cet espace public, d'où le gonflage de cette énorme bulle qu'on co-construit avec les habitants, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on ramène dans nos valises, hein. C'est quelque chose qu'on construit ici. Là, on l'a construit en l'occurrence avec le lycée Moulay Rachid à Chefchaouen.
Oui.
Donc c'est les élèves qui étaient fiers de montrer leur bulle, hein.
Mmh.
Quand même une bulle qui fait 240 mètres carrés, donc c'est grand. Et donc on abolit à la fois les barrières avec l'espace public, avec la billetterie, il n'y en a pas, mmh. avec les ateliers qui sont ouverts à tous, pour mmh. justement initier les gens à ces pratiques-là. Et du coup, il y a les bénéficiaires directs qui rentrent dans la bulle, et ceux qui ne rentrent pas, qui ne font que traverser,
d'accord.
et qui en bénéficient malgré tout, visuellement parlant, et sonore, et d'un point de vue sonore aussi.
Et justement, vous êtes en tournée au Maroc.
Oui.
Donc, c'était à partir du 4 mars jusqu'au 19 mars. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus donc, de cette tournée, ces trois villes, Chefchaouen, Tiznit et Casablanca?
Oui, c'est notre première approche au Maroc.
Mm-hmm.
Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, le projet a été initié en Tunisie.
Oui.
On a déjà traversé 9 villes en tout en Tunisie.
Mm-hmm.
On a même fait une édition en France à un
oui.
moment. L'année dernière, à cause du Covid, on ne pouvait pas se déplacer, donc on a fait là où on était. Et ici, pour le Maroc, c'est une nouvelle approche. En fait, on désire que ce projet devienne transmaghrébin, donc
oui.
régional,
mm-hmm.
que cette mobilité dépasse les frontières. Et si on arrive à la pérenniser, on serait d'autant plus heureux. Et le choix des villes, il est déterminé essentiellement par les collaborateurs qu'on a trouvé sur place. On vient ici en questionnant, en dialoguant,
mmh.
avec le désir de comprendre où est-ce que c'est pertinent d'intervenir.
D'accord.
Et donc les partenaires qu'on a ici, Zineb Adagi, qui est coordinatrice générale pour le Maroc,
mmh.
et qui est de Chaouen justement. Donc
mmh.
ça nous a permis aussi d'avoir un ancrage avec une personne qui connaît bien le territoire.
Mmh.
Du côté de Tiznit, c'est l'association Le Blind qui est installée là-bas, qui fait un excellent travail. Et donc nous, sans ces énergies-là, on ne peut pas en fait se déployer dans les villes. Ils nous ouvrent les villes, ils nous facilitent l'accès en fait aux autorités, la sécurité, et ainsi de suite. Nos logos est une grosse logistique. On est une vingtaine de personnes qui se déplaçons comme une sorte de compagnie de cirque. On ne fait pas du cirque. Les partenaires locaux sont vitaux, c'est vital pour nous. Ils sont vitaux, quoi. Sans eux, on peut pas se déployer. Voilà, donc c'est pour CASA, on est avec Mahdi El-Kendi, qui est notre partenaire, qui a des bonnes ondes, et avec 8 CASA qui nous soutiennent pour justement nous installer dans le parc, j'espère, de la Ligue arabe lors de notre présence à Casablanca. Tout ce projet est soutenu, ça a été l'opportunité en fait d'avoir un appel à projet émanant de la fondation FR qui est basée à Beyrouth, qui a fait un appel régional et c'était vraiment une très bonne initiative parce que très souvent on a envie de développer des collaborations sud-sud mais on n'a pas beaucoup d'opportunités de le faire. On ne trouve pas toujours en fait des financeurs pour ça, souvent nord-sud. Et donc, à travers cet appel-là, qu'on m'avait candidaté, parce qu'il faut savoir que le projet devait avoir lieu en 2020.
D'accord.
On a pu donc déployer le projet, quoi.
Ce que je voulais savoir, parce qu'on parle beaucoup du Maghreb, la Tunisie, le Maroc. Est-ce que dans l'avenir, vous ne pensez pas à élargir ce très beau projet dans des pays africains, par exemple ?
Tout nous intéresse, pour être très honnête. C'est-à-dire là où on a la possibilité de se déployer, on le fera et avec grand plaisir. La difficulté, en fait, de notre projet, s'il en a une principale en termes de déploiement, c'est les périodicités de l'année. C'est-à-dire qu'étant donné qu'on est installé dans l'espace public avec un objet qui est quand même un objet gonflable et qui crée un certain nombre de contraintes, on a besoin d'être dans des temporalités où il n'y a pas trop de pluie, pas trop de vent, pas trop de chaleur non plus, parce que ça fait un effet de serre sinon. Donc sur toute l'année, on sait qu'on peut se déployer généralement au printemps ou au début de l'automne. Mais en revanche, on parle actuellement justement avec Odile Sankara, avec qui on a collaboré pour un autre projet de théâtre du Burkina Faso. Et c'est quelque chose qu'on aimerait bien réussir à faire. Il faut juste qu'on trouve l'opportunité et les partenaires pour le faire. Mais on est ouvert, c'est dans notre tête en fait, clairement quoi.
Et dans un avenir plus ou moins proche, comment vous voyez justement l'évolution de nos logos ?
On aime bien l'idée de rester dans une approche à la fois collaborative mais simple. C'est-à-dire ne pas se transformer en une énorme machine difficile à déplacer. En fait, plus on est gros, plus ça devient compliqué. Plus ça pose des restrictions. Moi, j'aime bien ce côté un petit peu instinctif qu'on a. On organise un certain nombre de choses, mais on laisse l'espace à l'accident dans le sens positif du terme. C'est-à-dire qu'on laisse toujours la porte ouverte pour les rencontres. On essaye de ne pas établir un programme qui est prédéfini, ficelé, fermé et qui laisse plus d'espace à d'autres intervenants qu'on croiserait sur notre chemin. Donc, pour moi, le logo, il faut qu'il continue à se développer, que ce soit d'ailleurs avec nous ou avec l'apport d'autres énergies extérieures. À travers ça, à travers ces intrusions de différents acteurs où chacun apporte quelque chose. Là, par exemple, avec le théâtre de l'opprimé, c'est extraordinaire parce que eux, ils sont dans leur pratique. Ça vient juste augmenter leur pratique et la nôtre. En aucun cas, il y a une intrusion ni d'un côté ni de l'autre, mais c'est une réelle collaboration. Et c'est vraiment, c'est comme ça que j'imagine le logo, c'est-à-dire être de plus en plus riche en termes de contenu, à travers les différentes structures, acteurs culturels, artistes qui vont venir en fait s'associer au projet au fur et à mesure du temps. Donc plus on sera nombreux en termes artistiques et acteurs culturels, plus le projet serait bénéfique pour les publics et plus on ouvrira sur les territoires en plus.
Et c'est tout ce que l'on vous souhaite, Afif. Merci mille fois d'avoir été avec nous.
Bonne journée.
Ciao, au revoir.
Merci, au revoir.
Et après cette petite escale culture en compagnie de nos logos et de son directeur Afif Rahiani, eh bien cap à présent sur le Nigeria avec un talent brut, Tim Lahir, qui est une pépite, un artiste très prometteur de la nouvelle vague alternative nigériane mais africaine de manière générale. Tim Lahir qui nous a régalé dernièrement avec un album très réussi de 9 titres et baptisé sobrement Worry. Un opus qui a vu le jour après un travail de longue haleine pour le chanteur, producteur et multi-instrumentiste de Lagos qui a fait ses débuts en 2018. Tim Lear, il faut l'avouer, sait où il va. Sa musique est à son image directe, entière, profondément métisée. On peut même la qualifier d'afro-fusion. Sa musique est une exploration de l'expérience humaine dans une perspective afro-futuriste, et c'est lui qui le dit. En tout cas, il nous régale avec ce premier extrait, Hubris, ce premier single de son dernier opus baptisé Worry, et que l'on écoute tout de suite.
That you know, the stories of life and the rhythms are timeless. Every memory is priceless. You are now tuned into the highest of frequencies, best belief. And we do this frequently, easily. This the coolest. It's just facts, nigga. This ain't hubris. It's that gold level, just like Cuban. You can't hit because you can't do this. Now I open up your mouth to talk foolish.
But at this level, we transcend the bullshit. The haters are clueless. Wow.
Cause no way I don't cause problems. Now for them, I want my love. Not to get lined up all around me. It's around me, and we party. No time for no discussion. No, me, I forgive you concussion. Fire is a light all around me.
I bet I laugh on the last day. Please, Papa, nice story. I know it's best I wait, but me, I can't put a night jerking. Testy life tried to pull me down. Not today, I say. There ain't a thing I would change there. Not today, baby, for it all. Drop me out, yeah. I've been thinking about. About it, I know. If I get lit, I'm not gonna carry myself. Keep a bridge by the edge of me. Nighttime, B, I'm trying to pattern my outs. Myself, baby.
Pause. No way, I don't cause problems.
Now
for them, I want my love. Not to get loud and up all around me. It's around me, and we fall. No time for no discussion.
Hubris, extrait de l'album Worry de Tim Lear, premier album du Nigérian, qui représente à lui seul la renaissance de la scène musicale underground africaine entre trip psychédélique et effluve soul. Tim Lear nous installe dans une ambiance chaude, planante. Et c'est pour cette raison qu'il a invité des voix fortes de la scène nigérienne pour l'accompagner, comme Pretty Boy, Lady Danley ou encore Mojo Af. Sans oublier Lex Amor et son compatriote installé à Brooklyn, le rappeur Dap de Contact. En tout cas, avec Worry, eh bien, l'artiste nigérian Tim Lear signe encore une fois sa légitimité sur la scène underground nigérienne et africaine. Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, je vous propose une petite pépite musicale. Avant de nous dire au revoir, c'est bien sûr Césaria Evora, la diva aux pieds nus, remixée par FX et Edgar. Une pièce maîtresse et rare que l'on savoure ensemble. Merci d'avoir été avec nous. Et je vous rappelle que l'Afrique en culture, c'est à retrouver toujours en avant-première sur Média Podcast.
Slow down, 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 sl